Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation, sociale
et citoyenne. Écologie, économie sociale et solidaire. En Pays Nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet. Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission où nous allons parler de la Palestine. La Palestine est donc forcément d'Israël également. Pour cela, eh bien, nous accueillons quatre membres de l'association France-Palestine Solidarité 44. La présidente Mado Hervy, bonjour.
Bonjour.
À tes côtés, Mado Pierre, bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Claudie.
Bonjour.
Et Jean-François.
Bonjour.
Alors je précise tout de suite que Claudie, Jean-François et Pierre, vous avez fait en octobre un voyage de 15 jours en Palestine dont on va largement parler dans cette émission. Mais nous avons d'abord un petit peu quand même la nécessité de faire un focus sur l'actualité qui est pour le moins brûlante en ce moment pour nos auditrices ou nos auditeurs qui n'auraient pas suivi ce qui se passe actuellement. En ce moment, la démocratie israélienne est pour le moins chahuté. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou s'appuie sur des suprémacistes qui cherchent à étouffer la justice et l'indépendance de la justice et de la Cour suprême d'Israël, qui encourage aussi les exactions dans les colonies à l'encontre des Palestiniens. Avant qu'on rentre justement vraiment dans votre voyage et puis ce que toute cette situation implique du côté palestinien, est-ce que vous voulez nous donner peut-être un petit mot, votre éclairage sur ce qui se passe actuellement en Israël ?
Alors, ce qui se passe là-bas, malheureusement, n'est que la suite logique d'une dérive vers l'extrême droite qui se passe en Israël depuis des décennies. Mais là, on va dire, c'est le pompon. Il y a deux ministres très importants. L'un est un chef du parti sioniste religieux. C'est l'extrême droite religieuse. Il a tenu des propos anti-arabes. Il faudrait finir l'expulsion des Palestiniens qui n'a pas été finie en 48 par Ben Gurion. Il est homophobe. C'est le porte-voix des colons, et il est chargé de la Cisjordanie, pour faire vite. Et un autre, qui est un suprémaciste juif, chargé de la sécurité nationale, lui, il a été 10 fois en justice pour des violences racistes, bon, des joyeux drilles, et ces gens-là ont obtenu, bon, par le jeu du fonctionnement israélien, des postes très importants qui font d'eux qui au fond mettre en évidence le dérapage complet d'Israël, son extrême droite qui grandit. Et puis ça se traduit par le fait que les colons se savent tous les droits, et d'où le fait qu'après l'attaque de deux jeunes colons de deux jeunes colons par des Palestiniens, il y a eu ce qu'on a vu là, les attaques massives par des colons sur une ville palestinienne. Qu'ils ont brûlé, les gens ont été blessés, etc. Tout ça sous le regard tout à fait tranquille de l'armée israélienne qui n'est absolument pas intervenue.
Alors précisons que ça fait à peu près 2 mois que ce nouveau gouvernement est en place.
Ça fait 2 mois et déjà rien que les morts palestiniennes sont 5 fois proportionnellement, 5 fois plus nombreuses que l'année dernière, alors que l'année dernière était déjà l'année la plus meurtrière. On parle de plus de un meurtre par jour.
Plus de 60, oui. Plus de...
Ouais. On est à peu près à 65 Palestiniens qui ont été tués depuis le début de l'année 2023. Un peu moins de 15 Israéliens, c'est pour situer les choses. La situation, en tout cas, là, la démocratie israélienne est au bord du gouffre, puisque là, l'indépendance de la justice, si le projet finit de passer, il n'y en aura plus du tout. Ça veut dire qu'on a un gouvernement qui est complètement libre d'appliquer sa politique suprémaciste et qu'on peut imaginer la fin de la démocratie en Israël à court terme.
Vous avez utilisé le terme de la démocratie chahutée. Je pense qu'il faut nuancer parce qu'on peut s'interroger sur la nature de la démocratie israélienne avant ces événements-là. Israël est une démocratie, oui, mais une démocratie pour les Juifs et non pas une démocratie pour la minorité qui représente quand même 20% de Palestiniens qui vivent sur le territoire israélien.
Là, vous parlez des Israéliens arabes qui représentent 20% de l'ensemble de la population d'Israël.
Voilà. Donc ça, c'est, je pense que c'est, il faut l'indiquer aussi. Bon, on s'inquiète beaucoup de cette démocratie actuellement, mais avant, elle ne fonctionnait pas non plus de manière très, très correcte. Et puis, ce n'est pas non plus quelque chose qui arrive comme ça, spontanément. C'est l'aboutissement, ou du moins l'arrivée, d'un long processus qui a commencé au XXe siècle. Alors, on peut la faire remonter à la création de l'État israélien. Pardon. Donc, mais 1947. On peut la faire remonter plus loin aussi, peu importe. En tout cas, le point auquel on arrive, ben c'est quelque chose qui a commencé longtemps, il y a longtemps, et qui s'appelle la colonisation, l'occupation d'abord, la colonisation ensuite, et qui est qualifiée aujourd'hui d'apartheid, y compris par des citoyens israéliens.
On peut revenir sur ces manifestations massives.
Alors, manifestation peut-être précisée, hein, manifestation d'Israéliens contre la dérive autoritaire au sein de leur propre pays, contre la fin de l'indépendance de la justice, le rétablissement de la peine de mort aussi pour les Palestiniens qui commettraient des meurtres contre des colons, par exemple, et qui sont qualifiés de terroristes. Voilà, donc contre toutes ces dérives autoritaires, il y a eu des mobilisations massives à l'échelle d'Israël, plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue. C'est bien à ça que vous faites.
Tout à fait. Alors, ces manifestations-là sont très mises en évidence. Et elles sont très importantes parce que derrière, la situation serait effectivement dramatique pour les Israéliens juifs. Mais il faut rappeler que cette Cour de justice, elle a toujours donné un accord pour la colonisation, l'occupation, etc. Elle est aussi que pour les Juifs. Elle a une protection importante, mais que pour les Israéliens juifs. Et les quelques Israéliens qui sont allés à ces manifestations pour dire « mais il n'y a pas que ça qui est en cause, et notre soi-disant démocratie, elle est aussi pourrie par l'occupation, donc il faut aussi questionner l'occupation et la colonisation », ils se sont fait jeter de ces manifestations.
Et oui, donc là, ce que vous dites, c'est que les Israéliens défendent leur démocratie, mais pas la démocratie tout court. Absolument. Et pas le droit des Palestiniens. Sur ce contexte global, est-ce que vous souhaitez ajouter un mot ou est-ce qu'on rentre dans le récit de votre périple ? Eh bien, on va y aller. Vous étiez donc en octobre, pendant la deuxième quinzaine d'octobre, Claudie, Jean-François et Pierre. Je rappelle que vous êtes membre donc, de l'association France-Palestine Solidarité 44, hein, à peu près 300 adhérents, un tout petit peu moins en Loire-Atlantique. Vous vous êtes rendu, vous avez fait tout un périple, je crois, 5 ou 6 étapes. Est-ce que vous pouvez nous décrire, d'abord nous dire, est-ce que c'est facile aujourd'hui de se rendre en Palestine au niveau des autorisations, ce que vous a demandé comme préparation ce voyage ou comme précaution, comme lien préalable avec des associations ou des organisations? Voilà. Comment est-ce que vous y êtes pris?
Le déplacement reste malgré tout à la fois facile et difficile. Sachant que l'AFPS en général n'a pas le droit de citer en Israël, de par ses fonctions. Donc ça veut dire que le voyage se fait de façon plus ou moins, pas clandestine, mais on est parti, pour faire simple, on est parti de Paris, on ne se connaissait pas.
C'est-à-dire que vous étiez divisé, il ne fallait pas vous afficher comme groupe, vous étiez touriste individuel et non pas représentant membre de l'association France-Palestine
Solidaire. Et puis, pour passer les formalités douanières à Ben Gourion, même chose, on était tout seul et une fois passé les postes, divers postes de sécurité, on a pu se retrouver. Bon, c'est vrai que c'est une condition un peu particulière parce qu'on croise des gens dans les aérogares ou dans l'avion et on ne se connaît pas.
Mais une fois cette précaution passée, pour le reste, vous avez pu accéder à la Cisjordanie sans difficulté.
Ensuite, on a été sur Jérusalem sans problème. On a pris un taxi, arrivé à Jérusalem, ensuite on a circulé. Sachant qu'on en reparlera plus tard, ensuite sur le territoire palestinien ou cisjordanien, on ne va pas où on veut.
Ça, vous allez nous en parler.
Et d'ailleurs, le consulat qu'on a rencontré au début de notre voyage nous déconseillait formellement d'aller notamment à Jenin. Mais on a persisté parce qu'on sait qu'on est attendu là-bas par des partenaires qui sont garants de notre sécurité et qui savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Donc. Justement, dans la conception de votre voyage en amont, hein, avant qu'on débarque en Cisjordanie, vous aviez pris contact avec des partenaires. Avec qui travaille l'association France-Palestine Solidarité 44? Qui vous a aidé à préparer, à concevoir ce voyage? et à vous accueillir. C'est aussi parce que vous avez des partenariats historiques avec des acteurs de la société civile. Et qui sont-ils? Comment ça s'est fait?
On est indépendant des partis politiques, quels qu'ils soient, et des organisations politiques. Par contre, on est en lien avec les organes de la société civile palestinienne, qui sont nombreux. Donc il y a des syndicalistes, il y a des représentants des femmes. Par exemple, dans le camp de Jenin, un centre de femmes qui est très actif. Des agriculteurs, une coopérative agricole dans la région d'Hébron. Un collectif d'associations à Jérusalem qui s'appelle la Coalition civique pour les droits des Palestiniens. Hein, qui sont des... Et puis, dans les villages aussi, des organisations locales, des organisations de femmes. La société palestinienne est très riche en institutions de toutes sortes, d'institutions démocratiques.
Vous avez commencé votre périple par Bethléem, je crois ?
Jérusalem.
Ça a commencé par Jérusalem. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez observé à Jérusalem ?
Pour une première, moi c'était une grande découverte de Jérusalem. Tout d'abord une magnifique ville. Et puis dès qu'on rentre dans la ville, on se rend compte quand même de la présence policière, de la présence militaire. Surtout que lorsqu'on est arrivé, il y a eu le premier jour, le deuxième jour, un assassinat d'un militaire israélien. Et donc là, on est rentré dans le cycle tout de suite, victime, représailles et grève générale. Et donc là, la ville fermée complètement.
Grève de qui ?
Tous les commerçants, de toutes les administrations, de toutes les, en fait, la société civile palestinienne.
Pour protester contre la répression.
Voilà. Ouais.
Donc là, oui, vous étiez.
Et on a vu, on est passé dans le souk de Jérusalem un jour où il y a normal, et le lendemain, alors là, c'est autre chose. Et puis également l'esplanade des mosquées, quand même aussi, avec le mur des lamentations au pied, et ça fait drôle. Lorsqu'on voit les populations qui se. À ce côtoie, entre guillemets.
C'est-à-dire que sur l'esplanade, les populations se mélangent ?
Ah non !
Non, ça reste très
sur l'esplanade, le jour où on y était, il n'y a pas eu de problème, on n'a pas vu de...
Par contre, il y a des juifs qui viennent, on a vu, mais qui étaient encadrés par des soldats.
Oui.
Ils viennent, théoriquement, ils n'ont pas le droit de prier sur l'esplanade des mosquées. Certains le font un peu par provocation.
Et encadré dans ce cas par des soldats pour assurer leur sécurité.
On n'a pas eu affaire à d'incidents majeurs sur l'esplanade ce jour-là, sachant que depuis qu'on est rentré, il y en a quasiment tous les jours.
Oui, on va voir que la situation a évolué en 4 mois, hein, entre votre voyage et aujourd'hui. Autre chose qui vous aurait marqué à Jérusalem, dans votre découverte de la ville ?
Essentiellement, la colonisation qui est autour de Jérusalem.
Oui. Ah oui,
et le ce qu'on peut appeler clairement le nettoyage ethnique. L'obsession des Israéliens à Jérusalem, c'est de maintenir la population palestinienne à un maximum de 20 à 30%. Et donc tout est fait pour chasser, pour faire que les Palestiniens partent ou les expulser. Et il y a deux quartiers chauds en particulier qu'on a pu visiter. C'est le quartier de Sheikh Jarrah et le quartier de Silouane. C'est au sud de la vieille ville pour Silouane et au nord pour Sheikh Jarrah. Et ce sont des quartiers où, sous différents prétextes, les colons israéliens s'installent. À Silouane, par exemple, le prétexte, c'est de constituer dans ce quartier-là un parc archéologique, un parc de loisirs, mais de loisirs archéologiques, sous prétexte que le roi David, il y a quelques siècles, on aurait fait son jardin. Et donc, à partir de là, c'est un prétexte pour chasser les Palestiniens. Il y a 80 habitations qui sont menacées d'expulsion et de démolition. Et les Palestiniens se battent contre ces expulsions. Et puis, le quartier de Sheikh Jarrah, c'est un quartier qui était un quartier de réfugiés palestiniens de 48. Des terrains qui avaient été attribués par l'ONU, par l'UNRWA, agence de l'ONU, pour y construire des maisons pour les Palestiniens qui avaient été chassés de la partie ouest de Jérusalem. Et puis, une société de colons, une association de colons, a prétendu que, comme sur ce terrain-là, il y avait des Juifs il y a 180 ans, ça devait revenir aux Juifs. Et donc, à partir de ce prétexte-là, on va s'emparer des maisons et chasser les Palestiniens.
Qui vous guidait dans les rues de Jérusalem ?
Alors, on était guidé par Zakaria Odeh, hein, qui est le responsable de la coalition civique pour les droits des Palestiniens.
Est-ce que vous avez rencontré également des représentants de la société civile israélienne qui seraient mobilisés contre la colonisation et l'occupation ?
Ben non, c'était prévu. On devait en rencontrer, notamment c'était l'association B'Tselem qu'on devait rencontrer. Et il s'est trouvé qu'on est arrivé dans une période où ils étaient en vacances. C'était un peu difficile de les rencontrer, donc malheureusement.
Donc, vous avez continué votre périple, vous partez de Jérusalem, hein, la ville sacrée, la grande ville, et puis après, vous avez continué vers des camps de réfugiés, je crois.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la suite de votre périple en Palestine ? Claudie, je crois que vous êtes désignée par vos confrères.
J'ai cru le comprendre. Oui, en fait, oui, nous sommes arrivés à Déchet.
Et c'est où, Déchet ?
Alors, c'est au sud de Bethléem, c'est tout près de Bethléem en réalité. Et c'est un camp, enfin, surpeuplé, si on peut dire. On l'a déjà dit, c'est une situation qui perdure depuis plus de 75 ans.
Combien de personnes à peu près dans ce
combien
camp ?
Combien de personnes
Plusieurs centaines ?
Ah non,
plusieurs
non,
milliers ?
Non,
c'est 20 000.
Ouais.
15 à 20 000. 15 à 20 000, oui.
15 à 20 000 personnes.
Si la surface initiale du camp était d'un kilomètre carré et demi, la surface ne s'est pas dilatée.
C'est-à-dire que les réfugiés qui étaient peut-être initialement quelques petits milliers sont devenus aujourd'hui 15 à 20 000 au fur et à mesure des générations et donc surdensité de population.
Oui. Donc la vie à Déchet, c'est une vie bien sûr sans espace vert, sans la moindre parcelle est précieuse pour se loger.
Les logements sont en dur.
Les logements sont en dur. Oui, oui. Initialement, c'était donc un camp de toile, et puis l'UNRWA a construit des petites unités de base. Pour parer au plus pressé. Et puis, c'était censé être une solution transitoire.
Et 70 ans après.
Voilà, 70 ans après. Donc, il y a des constructions, bien sûr, en hauteur. Et ce qui frappe, c'est aussi le nombre de réservoirs d'eau sur les toits. Parce que il peut y avoir des coupures d'eau, donc les Palestiniens stockent de l'eau sur leur toit. Ça donne une impression d'installation un peu de briques et de broc au niveau de l'électricité et tout ça. Par contre, au niveau contact, au niveau chaleur humaine, au niveau partage, c'est un lieu très chaleureux.
Et l'accès aux services de base, justement, électricité, sanitaire, éducation, soins médicaux, enfin, quid ?
Alors, pour une partie, c'est donc géré par l'UNRWA.
Donc l'ONU
oui. Voilà, oui, l'ONU, c'est pour faire simple, pour ce qui est des soins et l'éducation. Et sinon, l'électricité et l'eau sont redistribuées par l'autorité palestinienne, mais soumise à l'État israélien, quoi.
Et donc, il y a d'éventuelles restrictions.
Toutes les ficelles, oui. Des restrictions,
des
coupures en mesure de représailles.
Au niveau éducatif et scolaire, les services sont, ouais. Alors, sont pas toujours de très bonne qualité parce que les classes sont surpeuplées. On manque de professeurs, mais globalement, la société palestinienne est une société des plus éduquées au Proche-Orient. Quoi, hein. Tout le monde va à l'école.
Femmes comme
hommes. Avec un niveau.
Et les classes sont mixtes dans les camps de réfugiés.
Bon, ce qui est frappant aussi dans les camps, quand à Déchet, comme on le retrouvera à Jénine, c'est l'importance de la jeunesse, des enfants. Ça grouille de partout. Et dans la mesure où les logements sont exigus, dans la mesure où il n'y a pas de structure...
Ils sont dehors.
Pas d'espace, ils sont dehors, ils sont dans la rue.
Donc il y a des grappes d'enfants partout.
Oui, mais très sympa. Et avec également quand même une prise en charge, là où on était à Déchet notamment. Moi j'étais surpris de voir les gamins arriver avec un instrument de musique. Et en fait, il y avait une école de musique dans le centre d'accueil. Donc ça, au niveau social, au niveau culturel, il y a une prise en charge, à mon avis, assez exceptionnelle quand même.
Et cette prise en charge, c'est l'ONU, c'est la société palestinienne qui s'auto-organise, c'est un mélange des deux ?
C'est associatif, là où on était attaché, c'est associatif. Alors des financements de l'ONU, je ne suis pas certain, mais il y aura deux partenaires européens sans doute, mais avec une prise en charge locale.
La population, oui. Donc l'ONU a très peu de moyens, de moins en moins de moyens, et notamment depuis que l'ère Trump aux États-Unis, qui a coupé les fonds, la cotisation des États-Unis à l'UNRWA, qui est l'agence de l'ONU. Et ils sont en grave difficulté financière, donc ils n'assurent pas ce qu'il faudrait.
On peut ajouter qu'il y a un soin très particulier de porter par la société palestinienne à ses enfants, l'éducation, mais aussi, comme tu le suggères, de la musique, et aussi beaucoup de travail, on va dire, dans des centres sociaux, entre guillemets, qui aident les enfants par le théâtre, par l'expression, à sortir l'angoisse de tout ce qu'ils subissent à travers l'occupation et la colonisation. C'est un travail d'éducation populaire, on dirait, chez nous. En tout cas, de volonté d'aider les enfants à rester non violents malgré l'écrasement qu'ils subissent.
Pour les adultes, en dehors de l'assistance, est-ce qu'il y a des perspectives ?
Des perspectives
De travail, d'activité ?
Non, malheureusement, non. Il y a le chômage atteint des niveaux astronomiques. Enfin, difficile à mesurer parce que Il y a un peu d'économie informelle. Malheureusement, par exemple, dans le camp de Jenin, au nord de la Cisjordanie, une des sources d'emploi, c'est d'aller travailler en Israël, y compris parfois travailler dans les colonies. Donc, ce qui se fait de manière un peu... ça ne se fait pas de gaieté de cœur, quoi, mais quand il faut élever une famille... Et en même temps, cette main-d'œuvre qui va travailler en Israël... est un moyen de pression de la part des Israéliens sur la société palestinienne. On l'a vu pendant la crise du Covid. Les Israéliens, dans un premier temps, ont refoulé tous les travailleurs palestiniens. Ils les ont refoulés en Palestine, dans le camp de Jenin en particulier. Et puis après, ils ont laissé ouvert le mur qui sépare, de façon à ce que des travailleurs non autorisés puissent revenir. Parce qu'il y a aussi une main-d'œuvre qui n'est pas autorisée, une main-d'œuvre clandestine qui est exploitée parce que n'ayant aucun droit reconnu.
Le sort des sans-papiers.
Voilà.
Qui se joue là-bas aussi. Un petit mot sur Jenin, puisque vous y êtes allé aussi à Jenin. Pierre, quand on préparait cette émission, vous rappeliez le rôle fondamental, fondateur de Jenin pour les Palestiniens, du point de vue de l'identité et de la résistance. Alors, racontez-nous un petit peu ce que vous y avez fait et ce que vous avez vu là-bas.
Alors, Jenin, pour nous, c'est très particulier parce que nous avons des coopérations avec des associations du camp de Jenin depuis 2003. Nous sommes allés pour la première fois en 2003 à Jenin, dans le camp de Jenin. C'était l'année qui a suivi l'attaque du camp, une attaque violente, qui a fait une soixantaine de morts et des centaines de blessés, voire plus. Et à partir de là, on a des relations avec des associations. Et ce camp a une tradition de résistance armée pendant la première intifada, pendant la deuxième intifada dans les années 2000. Et aujourd'hui, eh bien, ils estiment que la population du camp estime que personne ne les soutient, personne ne les défend contre les incursions israéliennes qui sont pas quotidiennes, mais plusieurs fois par semaine. Les soldats arrivent, ils vont venir à la recherche d'une personne, d'un résistant qui est reconnu, par exemple, qui a été repéré. Et ils vont attaquer le quartier, ils vont entourer la maison et parfois démolir la maison. Et à ce moment-là, les jeunes du quartier sonnent l'alarme. Il y a tout un système d'alerte sur des téléphones. Et la mosquée, à ce moment-là, lance une alarme. Et tout le monde se précipite, tous les jeunes se précipitent pour faire face à l'armée qui arrive. Et là, ça fait des dégâts. Et il y a eu quand même plusieurs dizaines de morts parmi la jeunesse palestinienne du camp de Jenin de l'année dernière. Et quand on pose la question aux adultes, à leurs parents, eh bien ils nous disent « Nous, on est fiers de nos enfants parce que nos enfants nous soutiennent, nous défendent, nos enfants nous défendent et nous on les soutient. » Et d'ailleurs, dans les personnes qu'on a rencontrées, une dame qui est au centre des femmes, Kifa, qui a deux fils qui sont dans la résistance et qui ont été tous les deux blessés, quoi. Mais c'est vraiment, ils sont vraiment liés à la société, vraiment.
Et puis il y a les femmes, la maison chaleureuse.
Et alors là, oui, là il y a la,
il y a la. Adjenine toujours.
Adjenine toujours. La maison chaleureuse, c'est une à l'intérieur de la maison des femmes, avec les, que l'on soutient d'ailleurs financièrement et politiquement. Cette association accueille une trentaine d'enfants qui sont référés par l'école, par le collège, qui sont des enfants en difficulté, soit en difficulté économique, difficulté sociale, voire psychologique, et qui sont accueillis pendant 2 ans dans le temps périscolaire, pour avoir un repas chaud d'une part, et puis aussi pour avoir des activités d'éveil, des soutiens aux devoirs, ou voire, le cas échéant, des soutiens psychologiques individualisés lorsque la situation le nécessite. Donc là, il y a une activité. Puis il y a une autre association, qui est une association de soins aux handicapés. Soit en termes de prothèses, fabrication de prothèses, adaptation de prothèses, soit en termes de contact avec les familles des personnes handicapées pour les soutenir, pour leur indiquer les bons gestes, etc. Et nous soutenons également cette association.
On va revenir assez brièvement sur une ou deux autres étapes de votre voyage en Palestine. Ce sera tout de suite après une pause musicale où on va écouter le trio Joubran Massar.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Mégaphone, l'émission de la rédaction où nous parlons aujourd'hui de la Palestine avec nos quatre invités membres de l'association France-Palestine Solidarité. Trois d'entre eux étaient justement en Cisjordanie en octobre dernier. Nous en avons déjà largement parlé dans la première partie de cette émission. Et pour conclure, nous allons évoquer deux étapes de leur périple, à savoir Beïta, près de Naplouse, et puis après Massa Ferriata. Si on commence par Beïta, Claudie, Jean-François, Pierre, qu'est-ce que vous souhaitiez nous transmettre de ce que vous avez vu, observé, compris là-bas? Peut-être nous décrire déjà à quoi ressemble Beïta. Est-ce qu'on est sur une commune semi-rurale? Est-ce qu'on est, je crois qu'on est sur une colonie, une zone de colonie?
Bien, Beïta, c'est en fait 15 000 habitants et sur une colline. Au nord de cette colline, il y a une vallée et une autre colline sur laquelle se sont installés les colons il y a maintenant quelques années. Et ces colons donc, menacent la sécurité quotidienne des Palestiniens.
Comment?
Ben, en prenant les terres, en chassant donc, tous les Palestiniens des zones agricoles où ils travaillaient jusque maintenant.
Mais alors pour chasser les Palestiniens, ils sont aidés par l'armée? Comment est-ce qu'ils font? Ils arrivent avec des armes alors, et puis...
Alors c'est une colonie en fait, Pierre, tu repréciseras si je me trompe, si tu connais mieux que moi la situation. Les colons donc, s'étaient installés il y a quelques années et ils ont été, entre guillemets, chassés par les résistants. Parce que la résistance de Beïta est quand même assez exemplaire. Et lorsqu'on parle de résistance, là c'est résistance pacifique. Avec des moyens assez originaux, tels que, par exemple, en inondant le camp en face, donc le camp de, bah, le camp, ou la colonie de laser, de rayons laser, toutes les nuits, de sonos à fond la caisse pour les empêcher de dormir, en fait, pour les déloger, quoi. Voilà les moyens dont ils disposent, hein. Face à cela, il y a des drones. On en a vu, nous, l'après-midi qu'on a passé sur Beïta, on a été surveillés par les drones. Oui, ils ne lançaient pas de munitions, mais bon.
Ça sert pour la surveillance. Et là, c'est pas l'armée qui gère les drones, hein. Ce sont les colons.
Ah non, là, c'est l'armée. C'est l'armée parce que les colons sont partis et l'armée a pris la place. Et au moment où on y était, c'était juste avant les élections, donc Netanyahou avait promis aux colons qui étaient là de les réinstaller dans la colonie s'il était élu. Et donc, ils sont revenus, appuyés par l'armée. Et là, depuis quelques jours, il y a des incidents, des violences très fortes entre les deux groupes.
Et là, c'est une question pour les Palestiniens qui vivent à Beïta, d'avoir aussi des terres à cultiver, espaces pour construire leur maison.
C'est leur gagne-pain, c'est leur travail.
C'est vrai, quoi, qui sont prises par... où ils ne peuvent plus accéder.
Donc, plus de gagne-pain, plus non.
Et alors, la violence des colons, et là, en l'occurrence, la violence de l'armée, se traduit par des tirs sur les Palestiniens et des tirs généralement au niveau des genoux. Très particulièrement, ils visent les genoux. On a vu plusieurs personnes qui ont des problèmes parce qu'ils ont eu les genoux éclatés. D'autres qui ont les yeux, qui ont perdu un œil parce qu'ils ont reçu une balle. Alors ce qu'on appelle des balles en caoutchouc, qui sont en fait des billes d'acier recouvertes d'une petite couche de caoutchouc, mais qui font très mal quand elles interviennent.
Là, l'objectif, c'est d'handicaper, pour mieux dissuader.
L'objectif, c'est d'handicaper. Mmh. Alors, une anecdote, pardon, qu'on a vue, c'était un vendredi après-midi, et on a discuté avec les amis les palestiniens, et il se trouve qu'il y avait trois Israéliens, juifs, qui étaient présents et qui viennent tous les vendredis pour soutenir les Palestiniens. Et un de ces Israéliens juifs nous a déclaré « J'ai honte d'être juif israélien quand je vois ce que fait mon gouvernement. Et je pense que tous les juifs israéliens devraient avoir honte de ce que fait ce gouvernement. » Donc il existe au sein de la société israélienne un certain nombre de personnes qui ont pris conscience et qui sont opposées à la colonisation et à l'occupation. Mais ils sont très peu nombreux.
Très minoritaire. La dernière étape dont vous souhaitiez nous parler, c'était Massa Ferriata. Là, on est dans le sud de la Cisjordanie. Décrivez-nous. C'est aussi un contexte de colonie.
Oui, alors, c'est un peu surprenant parce que lorsqu'on arrive sur Massa Ferriata, c'est un désert. Un désert, donc peuplé de bédouins, en quelques élevages de chèvres, de moutons. Et il y a maintenant quelques dizaines d'années, le gouvernement israélien a décidé de faire de cette zone une zone protégée, une zone militaire. Et donc pour cela, il fallait dégager et évacuer tous les villages. Ce qui représente une douzaine de villages pour quelques milliers d'habitants.
Un peu moins de 2000 habitants.
Oui, c'est ça, oui.
C'est pas très peuplé. Oui.
Mais bon, il y a une zone qui est occupée donc, par les Bédouins, qui ont leur village en dur, puisqu'ils sont là depuis déjà un petit moment. C'est une population semi-nomade. Et qui, donc, établit avec l'aide internationale des écoles. Pour, soit on revient toujours à cette jeunesse qu'on favorise, à laquelle on essaye de donner toutes les chances. Et ces écoles sont régulièrement détruites. Alors, des écoles financées par l'Union, par les aides européennes, détruites régulièrement par les forces d'occupation. Il y en a une, je ne sais plus le nom du village, qui en 2022 a été détruite 11 fois. À chaque fois, les Bédouins reconstruisaient, alors pas en dur, hein, c'était des écoles en toile, et on revenait. Et on détruit les villages petit à petit. Là, le village où on était a été attaqué, c'était au mois de fin janvier. Là, c'est pareil, pour chasser, rendre la vie impossible aux gens, pour qu'ils partent.
À quoi ? Excusez-moi.
Oui. Non, je voulais simplement rappeler que, dans un premier temps, la Cour suprême, dont on a déjà parlé tout à l'heure, au tout début,
celle qui est menacée de devenir complètement fantoche.
Et lorsqu'elle avait un petit peu de pouvoir quand même, avait jugé illégal les actions des colons et de l'armée israélienne. Et donc avait rétabli les Palestiniens dans leurs droits. Il y a eu ensuite des recours juridiques différents. Et en 2018 ou 2020, je ne sais plus exactement, une autre cour de justice a donné raison aux Israéliens.
Sur Massaferia,
sur toute la zone. Sachant que.
Sur l'expulsion de ces villages,
voilà,
des Bédouins.
En disant qu'ils peuvent être expulsés parce que, aussi, le président de ce tribunal était un colon israélien.
Je voudrais rajouter deux choses, une chose sur la colonisation. Parce que, précisément, cette colonisation, elle ne se fait pas au hasard. Ce n'est pas simplement des colons qui décident d'aller à tel endroit, etc. Il y a un plan israélien qui est assez structuré. Par exemple, sur Massafer Yatta, on s'est posé la question, quel est l'intérêt de mettre des colonies dans le désert ? Eh bien, quand on creuse un peu, c'est parce que ça permet de rejoindre, rejoindre cette zone-là au territoire israélien qui est à quelques kilomètres. Sur Beita, la raison, elle est différente, mais il y a bien une raison. C'est à proximité d'une grosse colonie qui s'appelle Ariel, qui est une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, qui a même une université, donc une ville israélienne bâtie sur le territoire palestinien. Et l'objectif, c'est de prolonger cette colonie-là vers l'est, de façon à couper la Cisjordanie et à empêcher le passage pour les Palestiniens du nord au sud. Donc il y a toute une
stratégie de grignotement.
De grignotement, de contrôle du territoire, de grignotement. Et c'est bien structuré, organisé et pensé.
Peut-être qu'on peut rappeler qu'il y a aujourd'hui à peu près 700 000 colons qui habitent en territoire palestinien. Une situation donc, qui se dégrade fortement et à toute allure. Quel espoir gardaient les Palestiniennes et les Palestiniens que vous avez rencontrés ?
L'espoir, c'est l'espoir de tenir. On sait bien, ils savent bien qu'il n'y a pas d'horizon politique à court terme, ou même à moyen terme. Mais l'essentiel, c'est de faire que la société ne s'écroule pas, qu'on continue à avoir des structures, à avoir l'éducation, à avoir des associations, à ce qu'on ne sombre pas dans le désespoir, de façon à pouvoir profiter un jour d'une conjoncture, soit d'une conjoncture internationale qui leur serait plus favorable, soit d'une conjoncture locale qui pourrait permettre de rebondir.
Et une question un peu provocante dans ce contexte, mais à quoi servait votre voyage, finalement ? Alors, pour vous, à voir, à constater, mais du point de vue de la situation, ou pour les Palestiniens, à quoi eh bien, est-ce que ça sert que des membres de l'association France-Palestine Solidarité 44 se déplacent ?
On est là. Et c'est ce que nous demandent les Palestiniens. Tous nous ont dit témoignez, repartez et dites ce qu'on vit, racontez.
Et quand vous venez, il y a très longtemps, pendant la période du Covid, pendant 3 ans, ils ont vu pas beaucoup d'internationaux ou même pas d'internationaux. Et là, ils sont très demandeurs parce qu'ils disent au moins, on voit qu'on n'est pas isolé, on n'est pas abandonné. Et pendant les exactions, là, et pendant les attaques dans le camp de Jenin. J'étais en relation téléphonique avec Najet, qui est une des animatrices du camp. Et on parlait de la situation. Et elle m'a dit textuellement, elle m'a dit, c'est grâce à vous que l'on peut tenir. Vous êtes un soutien important.
Mais un soutien, là, c'est à la fois financier et moral ?
Financier, mais moral et politique, de faire tic. Un soutien en termes de... Dans la société française, on parle de ce qui se passe et on dénonce la manière dont la société française, et plus particulièrement, pas la société, dont l'État français ne joue pas son rôle. Quand on voit que M. Macron a reçu Netanyahou après son élection et lui fait des grandes embrassades sur le perron de l'Élysée.
C'est le seul dirigeant occidental à avoir reçu Netanyahou, qui est quand même vu comme un suprémaciste, comme un allié des suprémacistes.
Si ça n'était pas stupide, on pourrait dire que c'est scandaleux.
Mais est-ce que la diplomatie peut avoir un vrai poids, puisque même les États-Unis ont demandé au gouvernement Netanyahou de se calmer, sans succès. Et on sait qu'Israël dépend très largement de l'aide militaire américaine. Donc si même les États-Unis n'arrivent pas, ou en tout cas n'influencent pas actuellement la politique israélienne, que peut la diplomatie ou...
Alors historiquement, il y a eu au moins une fois où les États-Unis ont dit clairement au gouvernement israélien, je ne sais plus lequel c'était, mais il y a longtemps, si vous faites ça, on vous coupe les vivres. Eh bien, Israël ne l'a pas fait. Parce qu'il faut se rappeler de ça, Israël est un pays qui vit avec... On le présente comme un pays très riche et très moderne et tout ça. C'est aussi un pays qui vit avec énormément d'argent qui vient de l'extérieur, des groupes juifs ou sionistes d'un peu partout, mais aussi du gouvernement israélien, américain. Si les gouvernements américains coupent les vivres, Israël ne peut qu'obéir. Il faut en avoir conscience. L'Europe pourrait jouer un rôle très important aussi si elle le voulait, mais pour l'instant, elle ne le veut pas. Alors là, on peut dire quand même que les Américains ont été très loin cette fois. Je cite, ils ont condamné des actes de violence aveugles, généralisés et inacceptables par les colons israéliens dans les zones palestiniennes. Les zones palestiniennes, ce n'est pas anodin comme mot. Nous voulons que les responsables de ces attaques odieuses soient tenus pleinement responsables et poursuivis. Et derrière, quand on dit poursuivis, ça veut dire on ne veut pas de l'impunité habituelle. Parce qu'un des points qui explique que les choses dérapent à ce point, c'est l'impunité. Et l'impunité, elle est double. Elle est d'Israël par rapport au reste du monde, mais aussi en Israël de chacun des citoyens israéliens. Par exemple, dans les 400 colons qui ont attaqué la ville il y a deux nuits maintenant, aucun n'a été arrêté. Et il y en a 6 qui ont été interpellés, mais parce qu'ils avaient attaqué des soldats israéliens. En dehors de ça, il n'arrive rien à ces gens-là. Évidemment qu'ils continuent. Donc derrière, il y a une responsabilité importante des diplomates et sans doute aussi des sociétés pour que nous, nos sociétés, fassent pression sur eux. Et puis, il y a des actions qu'on appelle BDS, boycott des produits israéliens, des investissements des entreprises, empêcher nos entreprises de participer à quoi que ce soit en Israël, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il y a des entreprises françaises qui travaillent avec Israël.
Peut-être que vous souhaitez en citer une ou deux qui sont emblématiques.
Actuellement, il y a par exemple tout le tramway que Jérusalem construit et qui relie justement la zone israélienne aux colonies, les aidant à se développer. Ce tramway est fait avec Alstom. Le même qu'à Nantes. Et puis il y a Carrefour qui vient de s'installer dans les colonies. Donc il y a une action qui est lancée avec les syndicats aussi pour dire, attendez, on ne peut pas participer, soutenir, aider les colonies à se développer. Et puis, comme s'il ne se passait rien là-bas, quoi. On participe à des crimes contre l'humanité, il faut être clair. Donc, crimes de guerre.
Vous, ce que vous défendez au niveau de l'association France-Palestine Solidarité 44, c'est de faire pression sur les entreprises, sur les politiques, à l'échelon local, pour qu'eux-mêmes fassent pression nationale. Donc c'est tout un jeu de dominos en fait, auquel vous encouragez.
Et puis on peut dire quand même qu'on s'est aperçu grâce à l'Ukraine, ou grâce tragiquement à l'Ukraine, que finalement il y avait des tas d'actions possibles dans les actions que vous venez d'énumérer, qui semblent impossibles quand il s'agit d'Israël. Ma foi, elles ont été possibles contre Poutine. Ce qui est quand même, disons-le, malheureusement, un espoir pour nous, puisque ces possibilités d'action, elles existent, c'est ce qu'on dit depuis longtemps, elles existent, eh bien faisons-les appliquer là aussi. Défendons le peuple palestinien qui résiste, comme on défend le peuple ukrainien.
Est-ce que pour vous, actuellement, le sort du peuple palestinien est intimement lié à celui de la démocratie israélienne ? Il y a notamment, d'après l'historien israélien Daniel Blattman, hein, qui a fait une interview assez passionnante pour Mediapart, ouais. Il pointe carrément un risque de nazification, quelque part, d'Israël, à très court terme, et de guerre civile.
Oui.
Est-ce que si on partait sur une hypothèse où la dérive autoritaire là, qui en ce moment est à l'œuvre, se poursuivait assez rapidement avec une dégradation de la situation, on pourrait craindre une aggravation de la situation des Palestiniennes et des Palestiniens, ou peut-être, puisque vous me l'avez relayé, Mado Hervi, l'association BDS, donc qui prône le boycott des produits israéliens, dit bah oui, mais en même temps, il faut peut-être que l'État israélien se désagrège pour prendre conscience de la racine de la colonisation et que la cause des Palestiniens, in fine, progresse ?
Ce que nous disent depuis très longtemps les Israéliens avec qui on travaille, les Israéliens qui se définissent comme anticolonialistes, c'est que tant qu'Israël ne paiera pas le prix, je les cite, hein, ne paiera pas le prix de l'occupation et de la colonisation, ça ne bougera pas. Alors le prix, ça peut être un blocage économique, ça peut être un isolement au niveau diplomatique, et c'est aussi malheureusement des morts du côté israélien. Tant que les Israéliens ne paieront pas le prix, entre guillemets, il y a un risque que ça ne bouge pas. Donc, évidemment qu'on ne souhaite à personne de mort, mais si apparemment, si, peut-être, enfin, je n'ai pas envie de dire il faut espérer ça pour que ça bouge. En tout cas, ça fait partie. Il faut qu'Israël paye le prix de ses crimes si on veut espérer que quelque chose bouge.
Pourquoi est-ce qu'il faut payer ? C'est pour prendre conscience, parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce que vous disiez, globalement, il y a des résistances dans la société israélienne, mais qui sont ultra minoritaires.
Minoritaires, parce que la société israélienne, depuis la création d'Israël, a dérivé complètement vers la droite et l'extrême droite, quoi. Aujourd'hui, il y a un soutien d'extrême droite très fort. Et dans l'interview de laquelle vous faites allusion, là, sur
celle de Daniel Blattman,
voilà, il dit carrément qu'aujourd'hui, ce sont les néo-nazis qui sont au pouvoir. Il utilise le terme.
Oui, il dit aussi qu'Israël va se rapprocher entre la Turquie et l'Iran en termes de dérive autoritaire, qu'on est en train de basculer là-dessus.
Mais donc, quand on dit que ça devient une démocratie illibérale, on pense à des exemples européens, comme la Hongrie, par exemple. Mais c'est bien plus grave que ça. Parce que la Hongrie, elle est dans un ensemble européen qui peut tempérer ou qui peut tenir à cause des subventions, etc. Mais Israël n'est contrôlé par personne. Et Israël a pris l'habitude de se moquer du droit.
Par les Américains, quand même, nous rappelait Mado Hervi, d'un point de vue budgétaire.
C'est pour le moment, c'est en parole. C'est-à-dire que l'État américain, Biden, ne prend pas les moyens de faire cesser ce qui existe. Il dit on va faire.
Il déplore.
Hein, mais les moyens, ce serait effectivement de couper les fonds. Hein. Et ça a été fait dans le passé, juste avant la conférence de Madrid en 1991. Et c'est le père Bush père, qui a mis l'accent et qui a menacé Israël de couper les fonds et qui a amené à des discussions. Donc voilà, il faudrait y arriver à des choses semblables.
Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre dans l'immédiat, en tout cas, que la situation, ça passe d'abord par une répression accrue des Palestiniens, une explosion encore plus massive des colonies, des pogroms.
De toute façon, si la situation se dégrade, c'est clair, les premiers mis en danger, ce sont les Palestiniens, toujours. Ce sont les Palestiniens. On parle beaucoup de la sécurité des Israéliens, mais c'est celle des Palestiniens qui est bafouée.
Ils en ont conscience, ils en ont parfaitement conscience. Ils savent qu'eux, ils payent le prix.
Ah oui, puis il y a un déséquilibre des forces armées. On ne peut même pas parler de déséquilibre, parce qu'il y a des côtés, il n'y a rien du tout. Et d'un côté, il y a un surarmement.
Mais je pensais Beth Selem, que vous avez failli voir. Human Rights Watch, Amnesty International ont fait des rapports récents affirmant qu'il y a ce qu'il faut pour dire qu'Israël est un apartheid, un état d'apartheid. Bon, ça dit ce qui se passe. Breaking the Silence, qui est une ONG israélienne qui recueille le témoignage des soldats qui est quand même ont un peu honte de ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé, il y a quelques années, de ne plus portée de procès auprès de cette fameuse cour
suprême,
parce qu'il disait ça donne l'impression qu'Israël a une justice, et en fait c'est une escroquerie. Donc c'est vrai que la situation est hyper grave, et il a fallu, pour qu'on en arrive là, il faut rappeler deux choses, un déni de la part du reste du monde et autorisant une impunité totale à Israël.
Donc pour vous, en tout cas, la situation actuelle en Israël est l'aboutissement de tout ce délitement lié à la colonisation, à l'apartheid et de l'abandon de la communauté internationale.
Absolument.
L'occupation est un poison pour la société israélienne. C'est la société israélienne même qui en est victime sans s'en rendre compte.
Oui, vous le disiez, c'est un style, la militarisation, le racisme, au cœur de l'éducation notamment, qui est très lié à l'armée, avec un endoctrinement qui va favoriser au fur et à mesure les extrêmes.
Ce qui explique que la jeune génération israélienne est encore plus à l'extrême droite que celle d'avant. Elle subit un bourrage de crâne, disons-le.
Eh bien, malheureusement, nous aurons d'autres occasions de suivre ce conflit et tout ce qui l'entraîne côté palestinien aussi. Merci à tous les quatre d'être venus, en tout cas, en parler à notre antenne. Merci à Juliette et Taïna également, et Jeff, pour la réalisation de cette émission.
Merci beaucoup.
Merci.
À suivre dans un instant, 5 minutes de reportage avec Pensée Locale, le programme de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, suivi de Rock à la Casbah. Bonne soirée.
Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Je vous emmène à Venanceau, en Vendée, à l'est de la Roche-sur-Yon, pour découvrir l'association Venensemble. Installée en plein cœur de l'île aux Déserts, elle propose diverses activités culturelles, mais aussi d'entraide. Et c'est le cas notamment avec le Repair Café, qui propose aux habitants de rafistoler leurs vêtements, mais aussi leurs objets en panne, dont le dépannage coûterait plus cher que leur valeur. Robert Dussignol en est le secrétaire et nous raconte un peu l'historique de Venensemble.
C'est parti en 2015, la municipalité de Venanceau a eu la volonté de faire un EVS. Donc c'est un espace de vie sociale. C'était pour lutter contre l'isolement des personnes, développer un peu le lien social aussi, et puis mieux vivre ensemble surtout.
Avec des regroupements d'associations au début, l'idée c'était quoi ?
C'était surtout pour un lien social, c'est-à-dire pour faire connaître les différentes associations, plus permettre à des habitants qui avaient certains projets de pouvoir nous les présenter et pouvoir les aider s'ils étaient réalisables surtout.
Alors c'était une idée de la ville au départ, vous le disiez, ça s'est vite transformé.
Ça c'était en 2015 et en 2016, le 1er mars 2016, Venensemble s'est créé.
Voilà, pour pouvoir prendre le relais et donc proposer aujourd'hui plusieurs activités très diverses. Comment ça fonctionne ?
Oui, alors on a plusieurs commissions, ce qu'on pourrait dire. On a une collection qui est des actions collectives, c'est-à-dire des gros événements qui permettent de regrouper pas mal d'associations plus des habitants. Mmh. On a une commission communication qui permet justement de faire communiquer et aider les associations à se faire connaître. Plus art et culture pour toutes les expositions qui peuvent y avoir. Et ça, c'est dans le local de l'Îlot des Arts où nous sommes basés.
Beaucoup d'activités, vous le disiez, il y a des événements que vous organisez. Et puis ce Repair Café dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui, ce Repair Café, il s'est créé quand ?
2017, janvier 2017. On était un des premiers Repair Café, si c'était pas le premier en Vendée.
Ah voilà, c'est ça aussi. Hein. Ouais, voilà, ouais. C'était quoi l'esprit de départ, l'idée de départ de se lancer là-dedans ?
Le premier Repair Café qui a été créé, c'était en 2009. C'était à Amsterdam et ça vient de là. C'était pour sauver justement des matériels qui partaient à déchetterie. Et les gens, avec une petite réparation ou en leur apprenant un peu à les réparer. Nous faisons surtout les électroménagers, les jouets. Nous ne faisons pas tout ce qui est grosse électronique.
D'accord.
parce que ça demande déjà les schémas, ça demande tous les composants.
Mmh. Des connaissances, parce que c'est vrai que c'est très spécifique.
Mais les connaissances, nous les avons. Mais le problème, c'est qu'après, c'est un problème de stockage de composants. Et alors, on fait surtout... alors, c'est presque de l'électromécanique, ce qu'on pourrait appeler.
Je vais vous dire qu'il y avait aussi de la réparation de vêtements. Il y a une couturière présente.
Nous avons une couturière qui montre aux personnes comment, mettons, réaliser un ourlet, faire des rideaux, etc. quoi.
Combien de personnes participent à ce Repair Café aujourd'hui dans l'association Venensemble ?
Alors, il y a 5 réparateurs... Il y a 2 personnes qui font l'accueil, puisque c'est un Repair Café. Mmh. Donc, ils accueillent et ils servent le café.
Ouais.
On a une couturière. Donc, vous voyez, ça nous fait à peu près 8 personnes déjà.
Et j'imagine, bien sûr, que vous avez toujours besoin de forces vives, de nouvelles personnes qui vous rejoignent. Comment on fait pour vous rejoindre dans ce Repair Café ?
Alors, il suffit de se rendre à l'îlot des Arts. C'est... l'endroit où se trouve la médiathèque. Mmh. Et ce bâtiment comporte plein de salles qui sont réservées aux différentes associations. Et là, il y a une direction et un accueil. Et là, à ce moment-là, il suffit de demander de renseignements.
Vous pouvez maintenant les rejoindre et participer à ces moments de convivialité. Et si vous passez dans le secteur de Venensault, n'hésitez pas à aller consulter leur site venensembletoutattaché.fr.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Bastien Mathieu pour Graffiti.